Nous sommes en direct de la Nuit européenne des chercheurs sur Radio U et sur la page Facebook d'Océanopolis. Pour cette édition un peu spéciale, nous sommes à distance, mais c'est quand même encore une fois l'occasion de se rapprocher des chercheurs et des chercheuses à l'occasion de ce grand événement de médiation scientifique. Ce soir, on raconte des petits secrets nocturnes, et avec nos intervenants, on s'intéresse maintenant à un secret que certains aimeraient sans doute bien cacher sous le tapis. Les pollutions plastiques, leur impact sur le milieu marin et surtout comment les éviter. Pour les 15 minutes qui vont suivre, nous allons en discuter avec nos trois intervenants. Camille Lacroix, ingénieure au CEDRE, le Centre de Documentation, de Recherche et d'Expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux. Bonjour.
Bonjour.
Arnaud Huvé, chercheur à Ifremer au sein du laboratoire LEMAR. Bonjour.
Bonjour.
Et Anne Rognan, conservatrice, médiation scientifique et culturelle à Océanopolis. Bonjour.
Bonjour.
Je vous mets au défi, vous qui êtes chez vous et qui participez avec nous à cette édition de la Nuit européenne des chercheurs, de trouver en moins de 30 secondes 10 objets en plastique autour de vous. Je participe aussi, bien sûr, autour de moi, la console du studio, le logo de la radio derrière moi, le téléphone, la porte, une bouteille d'eau, mes boucles d'oreilles, des bouts de mon casque, les touches du clavier qui est devant moi, ma webcam avec laquelle vous êtes en train de me voir et l'emballage de mon sandwich de ce midi. Ça fait 10 et je suis sûre que vous avez très facilement réussi à relever le challenge aussi. Bref, nous sommes cernés par le plastique. Mais que devient toute cette matière plastique ? Camille Lacroix, justement, est-ce que vous pouvez nous donner une idée, peut-être avec quelques chiffres, de ce que représentent les déchets plastiques dans les océans ? Et est-ce qu'on a une idée peut-être des tonnes de plastique qui flottent aujourd'hui dans les océans ?
Alors, c'est une question assez difficile parce que, en fait, on n'a pas forcément une connaissance très précise de la pollution. L'océan est immense et donc on n'a pas forcément des informations sur toutes les zones. Certaines sont très accessibles, très inaccessibles. Et donc, c'est assez difficile d'avoir des chiffres globaux pour quantifier la pollution des océans. Alors, ceci dit, il y a un certain nombre d'études qui existent. Et notamment, là, j'ai retrouvé une publication de 2015 qui estimait qu'en 2010, il y avait 8 millions de tonnes de plastique qui avaient été rejetées dans les océans. Mais il faut savoir qu'on a plusieurs façons de mesurer et de quantifier les plastiques. Et dans le cadre de mon travail de surveillance que j'effectue à l'échelle du littoral de France métropolitaine, on ne raisonne pas en masse, mais plutôt en nombre, parce qu'on considère qu'un objet est capable d'impacter l'environnement marin, quelle que soit sa masse, quelle que soit sa taille. Et donc, on va plutôt les compter. Et là, si on regarde un peu plus près ce qui se passe sur notre littoral, donc juste devant notre nez, eh bien, on se rend compte qu'il y a énormément de déchets qui sont retrouvés. En moyenne, on retrouve environ 1000 objets par 100 mètres de plage. Donc, c'est environ 10 déchets par mètre de plage.
Est-ce qu'on sait d'où proviennent ces plastiques ? Est-ce qu'on est capable de remonter leurs traces ?
Alors ça, c'est des choses qui nous intéressent et sur lesquelles on travaille, parce qu'effectivement, dans le cadre de la surveillance, nos objectifs, ce sont de fournir des données aux autorités pour pouvoir prendre des mesures ciblées. Donc forcément, on va s'intéresser à identifier les sources. Ceci dit, c'est assez compliqué parce qu'elles sont très multiples. Il y a également un problème qui est lié, une difficulté qui est liée à la diversité des objets et au fait qu'ils soient capables de se déplacer sur de longues distances. Donc là, il y a des outils qui existent, hein, ou des outils qui sont en cours de développement, notamment la modélisation ou grâce à l'acquisition de connaissances via des projets de recherche où on va s'intéresser, par exemple, aux apports des cours d'eau ou des réseaux d'eau pluviales ou d'assainissement.
Est-ce qu'on sait quel impact a ce plastique sur la faune ou la flore sous-marine, mais aussi sur l'homme, Arnaud Huvé ?
Alors, ils peuvent être deux grands aspects, on va dire, les impacts sur la faune marine une fois les déchets plastiques en mer. Le premier, c'est que ces plastiques en mer vont être un nouvel habitat. Et donc, il y a beaucoup d'organismes, notamment des petits organismes, des micro-organismes comme des bactéries, qui vont en fait trouver cet habitat à leur goût, se développer et coloniser. Et comme les plastiques sont durables, eh bien, ils vont pouvoir les transporter sur de grandes échelles d'espace et de temps. L'exemple le plus probant, c'est l'introduction de 300 espèces d'origine japonaise suite au tsunami sur les côtes ouest américaines. Et puis, deuxième grand volet, c'est toutes les interactions qu'il va y avoir avec les organismes marins. Alors, ça peut être des gros déchets qui vont bloquer, obstruer ou, comment dire, piéger les gros organismes comme les tortues, les mammifères marins, etc. Et puis, il y a toute la partie ingestion des microplastiques les plus petits, qui sont inférieurs à 5 mm et qui représentent pourtant plus de 90% des déchets plastiques en mer. Une fois ingérés, Alors après, il y a plusieurs devenirs, soit ça reste coincé, soit c'est évacué, c'est ce que nous voyons le plus en laboratoire, soit ça peut passer pour les tout-petits dans d'autres tissus, c'est ce qu'on appelle la translocation. Dans tous les cas, quels que soient ces devenirs, ça fait des effets sur l'organisme, ça peut perturber leur digestion, faire qu'il y a moins d'entrée d'énergie par l'alimentation, ça peut aussi engendrer des stress, de l'inflammation, tout ça concourant à projeter des effets sur la croissance, la reproduction, la défense, etc., etc.
Camilla Croix, je crois que vous travaillez sur quelque chose. Alors, c'est un très joli nom, mais c'est assez dangereux, a priori. Les larmes de sirène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et l'impact qu'elles ont, ces larmes de sirène ?
Alors, ce qu'on appelle les larmes de sirène, ce sont en fait la matière première plastique qui est conditionnée sous forme de granulés. Une fois qu'elle a été fabriquée, une fois que le plastique a été fabriqué, avant qu'il soit transformé, il est conditionné sous forme de petits granulés de quelques millimètres de diamètre et est transporté comme ça... Avant d'être transformé. Et il y a un certain nombre de fuites, alors qui sont accidentelles ou qui sont liées à des rejets chroniques. Alors ça peut être lors du transport ou dans les usines. Et donc on en retrouve énormément qui sont rejetés dans l'environnement et notamment sur le littoral. Alors c'est considéré comme des microplastiques du fait de leur petite taille. Et donc en termes d'impact, ça a les impacts qu'ont tous les microplastiques et qui ont été énoncés par Arnaud.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui si c'est possible de nettoyer les océans des plastiques qui sont déjà dedans ? Est-ce qu'il y a des techniques ou des initiatives menées au niveau mondial ou en France pour nettoyer ces océans ? Anne Rognan, peut-être ?
Si je suis la plus à même à répondre. Alors, tout nettoyer, je pense que c'est un peu utopique, mais moi, je voulais quand même souligner les actions de certaines associations qui ramassent quand même les déchets pendant toute l'année sur nos plages, mais aussi des expériences qui peuvent être originales. Hein, c'était votre question. Je pense à l'expédition Plastique Odyssée qui a essayé de mettre en place, en tout cas, un premier bateau à carburant, un prototype, en tout cas, aux déchets plastiques. Et je n'oublie pas, parce que c'est la Nuit européenne des chercheurs, les chercheurs qui ne cessent de travailler sur des programmes scientifiques sur la thématique des plastiques, des microplastiques, mais aussi certains qui peuvent finalement découvrir, j'ai lu quelques publis sur certaines enzymes qui étaient capables de désagréger du plastique ou la découverte de nouvelles larves qui pourraient peut-être dégrader naturellement le polyéthylène, mais je pense que Camille ou Arnaud pourraient répondre à cette question. En tout cas, tout nettoyer, c'est un sacré défi.
Camille, justement, vous faites partie du CEDRE, on l'a dit. Est-ce que vous travaillez, vous aussi, sur des programmes qui peuvent permettre de nettoyer les océans de tout ce plastique ?
Non, nous ne sommes pas directement impliqués dans des programmes de nettoyage. Alors, nous avons connaissance d'un certain nombre d'actions. Et c'est vrai que finalement, l'action qui est la plus mise en place, je pense, c'est le nettoyage du littoral. C'est ce qui est le plus accessible, probablement aujourd'hui le plus développé, même s'il y a également des initiatives qui sont lancées en haute mer et de plus en plus également dans les cours d'eau, plus à l'amont, avant l'arrivée des déchets dans le milieu marin.
Comment justement nettoyer, on comprend que c'est une question complexe qui nécessite des moyens, de la recherche. Et justement, au-delà du fait de nettoyer, on peut analyser, lutter contre ces pollutions plastiques même en amont. Est-ce que vous, au sein de vos structures, par exemple Arnaud ou Camille, vous êtes investis dans des programmes de recherche ? Est-ce que vous participez à ces programmes ? Quels sont votre rôle ? Je pense notamment à Arnaud Vivier, je crois que vous travaillez sur un programme qui s'appelle Nanoplastique. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, nous dire en quoi ça consiste ?
Alors, le projet ANR Nanoplastique, qui est porté en fait par une maître de conférence de l'Université du Mans, il faut voir ça plutôt comme un projet d'anticipation parce qu'on n'a toujours aucune idée des quantités de nanoplastiques en mer. Déjà, même les petits micros sont difficiles à estimer en termes de quantité, de concentration. Et donc, on a posé ce projet qui finit en 2020, qui avait une durée de 4 ans, pour essayer de comprendre en fait comment se forment ces nanoplastiques, avoir des méthodologies pour les suivre, les caractériser, et puis surtout nous anticiper par rapport à la toxicité de ces nanoplastiques, parce qu'on devine qu'il y en a en mer, on sait qu'il peut y en avoir, mais on ne connaît pas les quantités. Et on essaye d'anticiper l'information en sachant que les nanoplastiques sont plus impactants pour la faune marine que les micros, de par leur toute petite taille, c'est-à-dire qu'ils sont tellement petits qu'ils vont avoir la propension notamment à pénétrer les membranes digestives et non pas simplement à faire un transit, comme je le disais tout à l'heure, et potentiellement à les migrer dans d'autres tissus. Ça a été par exemple montré par des chercheurs suédois, en expérimental bien sûr, avec des nanoplastiques retrouvés dans le cerveau des poissons, et ça modifiait leur comportement.
Ça, c'est des choses qu'on peut retrouver chez l'homme aussi ?
Alors, les nanos, pour l'instant, vu les méthodologies actuelles, je ne peux pas vous le dire. Par contre, les microplastiques, oui, il y a déjà des études qui montrent qu'on estimait d'une part quelle quantité on pouvait ingérer ou inhaler, puisqu'il y en a aussi beaucoup dans l'air, et puis d'autre part, qui ont fait des recherches de microplastiques, de particules dans nos excréments, sur la base de quelques volontaires, et oui, on en ingère, on en inhale et on en excrète dans nos déjections.
Camille Lacroix, vous travaillez, je crois, notamment sur le programme OceanWise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et ce que vous faites au sein de ce programme ?
Alors, l'idée du programme OceanWise, qui est un projet européen, donc qui regroupe 14 partenaires européens et qui est porté par un partenaire portugais, il a pour objectif de développer proposer en tout cas des mesures pour lutter contre la présence d'un type de déchets en particulier dans le milieu marin, qui sont en fait les polystyrènes expansés et extrudés. Vous savez, ces objets, constitués de ce matériau blanc fait d'un agglomérat de petites billes très léger et qui est utilisé énormément comme caisse à poisson, par exemple, ou comme isolation dans le bâtiment. Et là, l'idée du projet, c'est déjà d'analyser toutes les utilisations de ce matériau, essayer de savoir pour quelle utilisation on a des risques de perte et de rejet dans l'environnement marin, et ensuite de faire une analyse du cycle de vie de chaque type d'objet en fonction des utilisations et de proposer des solutions pour prévenir le rejet dans l'environnement et également avec un objectif de rendre l'économie associée à ces produits plus circulaire, c'est-à-dire en s'appuyant plus sur le recyclage ou le développement d'alternatives biosourcées, biodégradables. Donc là, tout est considéré. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche objective et de fournir toutes les données pour permettre aux décideurs de mettre en place les meilleures solutions en fonction des types d'utilisation.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il y a des mesures ou des programmes gouvernementaux européens pour réduire la production de plastique à Anne Rognan sur cette question ?
Je pense que les gouvernements, en tout cas, ont un rôle majeur à jouer hein, dans l'interdiction de certains produits. Et puis, on l'a vu quand même ces dernières années, avec la suppression des pailles, des sacs plastiques, de certains produits cosmétiques. Mais à la fois, c'est vrai, parallèlement à ces interdictions, finalement, il y en a certains qui cherchent à élaborer, du moins des industriels, de manières plus respectueuses l'environnement. Camille a parlé de bioplastique tout à l'heure. Mais moi, je pense aussi quand même que les programmes européens dont vous parlez depuis tout à l'heure, dans lesquels sont impliqués Arnaud, Camille ou Oceanopolis, participent aussi à changer parfois les comportements, les regards sur ces pollutions plastiques. À Oceanopolis, on est impliqué dans un programme qui s'appelle Preventing Plastic Pollution. Il y a 18 partenaires dans ce programme qui, finalement, l'objectif est de mieux comprendre et réduire les impacts de la pollution plastique en milieu marin. Et on travaille, en fait, à l'échelle du bassin versant, de la source à la mer, avec des partenaires anglais et français qui sont assez nombreux pour identifier et cibler finalement des endroits où il y a beaucoup de matière de pollution plastique, mais aussi on essaye, comme je vous disais, d'accompagner le changement de comportement des acteurs, des publics, des entreprises sur les territoires, hein, et essayer aussi de mettre quelques solutions en œuvre et des alternatives efficaces à l'utilisation du plastique. Donc c'est un programme qui démarre en ce moment et qui va courir sur 3 ans. Voilà.
La Nuit européenne des chercheurs, on le sait, c'est un grand événement de médiation scientifique et de la médiation scientifique, Oceanopolis en fait toute l'année, sans doute aussi vos laboratoires de recherche. D'après vous, Anne Rognan, quel rôle peut jouer justement la médiation scientifique dans la prise de conscience en fait de la problématique justement de pollution plastique ?
Alors pour moi, la médiation scientifique, la culture scientifique, c'est hyper important sur cette thématique-là, mais sur d'autres objets scientifiques. L'éducation est un enjeu fort pour lutter contre les pollutions plastiques, et la culture scientifique et la démarche scientifique sont des piliers finalement de l'éducation. Je pense que les actions que nous pouvons tous mener dans nos équipements vont préparer finalement les jeunes en tant que futures citoyennes et citoyens pour comprendre le monde qui les entoure, bien sûr, mais aussi relever des défis sociétaux qui sont importants, comme réduire les pollutions plastiques. Pour moi, la culture scientifique, c'est un enjeu fort pour la formation de jeunes citoyens, mais la démarche scientifique, c'est un outil incroyable, essentiel pour lutter aussi finalement contre la manipulation des esprits, si je peux m'exprimer comme ça. Développer chez les jeunes leur esprit critique, il est important, c'est fondamental. Vous voyez bien qu'en ce moment, c'est encore plus important. Et pour tous, finalement, si on s'adresse à tous les publics, diffuser, informer, proposer des dispositifs de médiation interactifs, participatifs, innovants, donner la parole aux chercheurs, aux scientifiques, bien c'est le rôle d'un centre de culture scientifique comme Océanopolis, et sur la thématique plastique, c'est fondamental, à mon avis.
Sur cette question, Camilla Croix, Arnaud Huvet, le rôle de la médiation scientifique, vous avez le même regard ? Vous partagez cet avis ?
Oui, tout à fait. Surtout qu'on fait face à un sujet qui est très complexe, le sujet de la pollution plastique. Ça recouvre énormément de matériaux qui sont très divers, d'origines très diverses. Et donc, avec aussi des solutions qui sont en train de développer en nombre, il est vraiment important de sensibiliser, communiquer, fournir des informations pour que tout le monde puisse appréhender le problème de la meilleure façon qu'il soit.
Arnaud Huvet.
Oui, tout à fait d'accord. On a tous un rôle à jouer en tant que citoyen. Et en plus, comme l'a dit Anne, la prochaine génération est la plus facile à convaincre et sera la plus importante pour trouver des solutions et des moyens de changement.
Merci à tous les trois. Donc vous pouvez bien sûr retrouver des informations sur les sites du CEDRE, d'Ifremer et d'Océanopolis. Merci encore à tous les trois d'avoir accepté de participer à cette table ronde ce soir. Donc je le rappelle, nous recevions Camilla Croix, ingénieure au CEDRE, Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux, Arnaud Huvet, chercheur à Ifremer au sein du laboratoire LEMAR, et Anne Rognan, conservatrice médiation scientifique et culturelle à Océanopolis. La nuit européenne des chercheurs, ce n'est pas encore fini. Restez connectés sur la page Facebook d'Océanopolis. Excellente nuit européenne des chercheurs à tous. Bonne soirée.
Bonsoir.
Bonne soirée.